Réplique, l'école républicaine a-t-elle un avenir ? Avec Mathilde Brézet et Camille Dejardin. En 1989, Christian Baudelot et Roger Stablet publiaient une enquête fouillée et chiffrée sur l'école en France sous ce titre décoiffant « Le niveau monte ». Nous sommes en 2022 et l'optimisme n'est plus vraiment de mise. Même la sociologie, malgré ses efforts, malgré son infatigable bonne volonté, ne peut dissimuler la situation. Comme l'écrit Camille Dejardin dans son livre « Urgence pour l'école républicaine », toutes les études pointent les piètres performances de la France en matière d'éducation. Bien que nous vivions sous le climat de la déconstruction tous azimuts, le gouvernement du nouveau quinquennat devrait s'assigner pour première mission et même ériger en grande cause nationale la reconstruction de l'école. Je ne sais pas si tel est le cas, si tel est l'objectif du président de la République et de son ministre de l'Éducation, mais faisant comme si, j'ai voulu leur apporter mon aide en invitant aujourd'hui deux professeurs, Camille Dejardin et Mathilde Brézet. Et d'abord donc, le diagnostic. Quel est l'état exact de l'enseignement secondaire en France, Camille Dejardin ?
L'état exact de l'enseignement secondaire en France est évidemment difficile à connaître puisque condenser l'état des lieux de l'éducation en un certain nombre d'indicateurs chiffrés, comme on le dit aujourd'hui, porte nécessairement le risque d'introduire des biais dans la mesure. Il faut d'abord savoir ce que l'on mesure, comment et comment on réduit une situation éminemment complexe, plurielle par la pluralité des filières, mais aussi par la diversité des situations entre les établissements, en une certaine série de chiffres prétendument éclairantes pour l'action publique. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est que, alors que, comme vous le dites, l'optimisme est de mise pour continuer à agir, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau des carrières de chacun, un certain désenchantement plane sur l'éducation nationale et notamment dans le secondaire au fil de deux réformes majeures des deux dernières mandatures sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem et sous celui de Jean-Michel Blanquer au plus récent. Mais ce qui est sûr, c'est que même les indicateurs chiffrés aujourd'hui ne sont plus à l'optimisme. Les rapports de l'OCDE, par exemple, pointent un décalage flagrant entre les objectifs ou la prétention de la France à avoir un système éducatif républicain exemplaire, égalitaire, fondé sur l'égalité des chances et jusqu'à il y a peu une certaine excellence, notamment en mathématiques, qui n'existe plus. Mais l'OCDE elle-même pointe des performances éducatives extrêmement basses, inférieures aux moyennes européennes, en baisse depuis 20 ans et qui notamment sont alarmante à deux titres. Le premier, c'est la baisse de maîtrise de savoirs fondamentaux, comme l'expression en langue française et l'organisation logique de la pensée et des mathématiques. Et le deuxième indicateur, et là c'est sorti dans un regard sur l'éducation qui est paru il y a quelques jours, le 3 octobre, c'est le décrochage des filles dans l'enseignement des sciences et des mathématiques. Et là, l'OCDE pointe directement la responsabilité de la réforme Blanquer qui a divisé les cursus, aboli le bac général en quelque sorte au profit d'un bac à la carte. Ces deux choses-là ne sont pas dissimulables derrière les chiffres. J'insiste aussi sur le fait que ces chiffres se fondent sur des études comparatives dans l'histoire. Il y a donc un référent, un moment qui sert de modèle. Donc si la vérité n'est pas absolue, elle est au moins relative dans cette mesure. Et cela permet de contrebalancer le diagnostic contraire, qui est pourtant porté par la même OCDE, à savoir que le niveau d'éducation monte si l'on en croit les diplômes. Donc ce qui est très intéressant et qui, me semble-t-il, doit être interrogé, c'est que le taux de diplômés en France monte, les résultats du bac n'ont jamais
été... Et le niveau baisse.
Voilà, le résultat chiffré monte, plus de bacheliers que jamais, 95 et quelques pourcents, plus de diplômés du supérieur que jamais, Et pourtant, quand on regarde des indicateurs constants de grammaire, de calcul, ce genre de choses, le niveau baisse. Donc, il faut bien distinguer deux types de réussite, la réussite par les diplômes et la réussite par les connaissances et les compétences.
Est-ce que vous corroborez ce diagnostic, Mathilde Brezet ? Sentez-vous, notamment dans vos classes, une baisse du niveau de l'expression orale et écrite et de l'organisation logique ?
Oui,
les élèves.
Je crois que ça c'est une certitude. Je ne pourrais pas avancer d'autres chiffres ou contredire au contraire les chiffres que vient d'avancer Camille Desjardins ni son diagnostic. Le niveau par exemple de la syntaxe des élèves et parlant dès qu'on peut les lire ou qu'on peut les entendre s'exprimer à l'oral. Ce qui me frappe moi dans l'état de l'enseignement secondaire, au-delà de la question du niveau, au-delà aussi de la question des ressources humaines dont on a beaucoup entendu parler tout l'été avec cette pénurie de professeurs, évidemment, qui vient expliquer ou peut-être qui est la conséquence justement de cet état du niveau. Ce qui me frappe, moi, c'est le rétrécissement de l'horizon éducatif que l'on se donne dans l'éducation nationale et que l'on se donne dans ces institutions. C'est-à-dire que les discours qui circulent entre les éducateurs, entre les chefs d'établissement, parmi les professeurs, sont très souvent réduits à des finalités extrêmement techniques, extrêmement pragmatiques. Nous oscillons de technique en technique, de compétence en compétence. Et en fait, l'éducation nationale est à bout de souffle parce qu'on a oublié la finalité, tout simplement, de l'éducation. Personne ne se demande jamais qu'est-ce qu'un élève et de quoi a-t-il besoin ? Comment réaliser mon métier d'éducateur ? Et nous avons le nez, comme vous le disiez, dans différents indicateurs, dans différents, dans tous des systèmes de référents. Nous cherchons à évaluer, à mesurer. Nous sommes pris dans des finalités parfois complètement extérieures à celles de l'école. Notamment, ce qui m'a frappé, moi, ça a été la lettre de notre nouveau ministre l'éducation, qui envoie donc une lettre à tous ses ouailles, à ses professeurs au moment de la rentrée, mettant en avant un certain nombre de points sur lesquels il veut insister. Et parmi ces points, vous trouvez, il y en avait 5, pêle-mêle, les savoirs fondamentaux, très bien, mais aussi la question écologique, la revalorisation du métier d'enseignant et la lutte contre les inégalités sociales. Et ce dernier point, par exemple, venait en premier.
Alors justement, c'est très intéressant, et peut-être faut-il s'arrêter sur cette finalité assignée à l'éducation. Peut-être le mal vient-il de là, malgré les apparences, parce que qui pourrait s'opposer à la lutte contre les inégalités ? On a oublié que la sélection était une idée de gauche. Or, pourtant, c'est vrai, de Charles Renouvier à Marc Bloch. On voulait combattre par la sélection la cooptation. Et les bourgeois, peu amis de l'égalité, comme disait Charles Renouvier, n'aimaient pas l'idée que des enfants d'ouvriers arrivent à leur propre niveau. Et l'école républicaine disait, on va instaurer, sans complaisance ni relâchement, une sorte de sélection pour que, précisément, selon le vœu des premiers républicains, la distinction procède non de l'appartenance, du privilège, de l'héritage, mais des talents et des mérites. Mais, si vous voulez, il y a eu Bourdieu. Et Bourdieu a dit, mais tout ça est un mensonge. Vous voulez diminuer l'importance de l'héritage social. En réalité, vous légitimez cet héritage à travers de cette sélection parce que, à ce moment-là, les privilèges sont transmis justement d'héritage social en grâce individuelle. Donc, les enfants de la bourgeoisie se disent « nous sommes les meilleurs » et les enfants des classes défavorisées se disent « nous méritons notre destin puisque de toute façon nous ne réussissons pas ». Mais la culture, elle est ce qui imprègne déjà les classes favorisées avant même que leurs enfants n'arrivent à l'école. Et il semblerait que l'école ait intériorisé ce reproche depuis Bourdieu, et donc on a tout fait, le collège unique, etc., pour en finir avec cette situation. Et qu'est-il arrivé ? On a supprimé la sélection, donc les élèves les plus faibles sont arrivés dans les classes avec les meilleurs. On a évidemment abaissé le niveau des classes pour ne pas les laisser sur le bord du chemin. et les enfants des classes défavorisées, par contre, vont échapper à cet abaissement général du niveau parce qu'ils sont allés dans le privé ou parce qu'ils ont trouvé des lycées d'excellence, etc. Et le résultat, c'est que la situation s'est encore aggravée. Le niveau a baissé, la situation s'est encore aggravée, mais on ne le pense pas. On continue à dire qu'il faut lutter contre les inégalités sociales à travers cette massification, cette homogénéisation qui baisse le niveau général et qui frappe ceux dont vous dites d'ailleurs, Camille Desjardins, qui n'ont en fait, qui frappe d'abord ceux qui n'ont que l'école pour s'élever. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de cercle vicieux, Camille Desjardins?
Tout à fait. Ce que vous rappelez là, c'est la critique classique de la méritocratie qui, sous couvert de justement récompenser la valeur individuelle ou les mérites individuels, ne ferait que sélectionner le privilège acquis par un héritage culturel, notamment celui des héritiers de capital culturel.
Oui, et ça c'est l'expression voilà, du passeron, le serait, capital culturel.
Et ce serait la nouvelle oligarchie, une nouvelle aristocratie qui s'ignore. Sans entrer forcément complètement dans l'affrontement de cette critique qui peut s'entendre également, je pense qu'au contraire, cette critique fonde malgré elle la légitimation de l'école républicaine. Parce que si on parle des finalités de l'école, à mes yeux du moins, et je pense que c'est celle d'une école véritablement républicaine en son sens initial de partage de la chose commune, une chose à la fois institutionnelle par la citoyenneté notamment et culturelle par le partage d'un horizon commun, qu'il soit national mais tout simplement aussi mondial, intellectuel, c'est là que l'école a tout son rôle à jouer justement pour élever ceux qui ne trouvent pas chez eux l'aliment de cette participation paritaire à la chose commune. Et donc, il me semble qu'il n'y a aucune contradiction à critiquer une certaine forme de sélection, mais à promouvoir l'exigence. Et cette exigence combat directement le nivellement par le bas et exige une certaine forme de discrimination au sens de distinction fine des inégalités à traiter et de remèdes différenciés.
Critiquer la sélection et en même temps revaloriser l'exigence, Camille Desjardins, ça me semble un peu contradictoire. Parce que si vous voulez revaloriser l'exigence, eh ben, il faut, en effet, accepter de faire le tri à un moment donné.
Bien sûr.
Sinon, vous en arrivez effectivement à donner le bac à tout le monde, à transformer le bac en droit de l'homme.
Et à reporter les inégalités plus loin.
Et là, vous sacrifiez l'exigence au nom de ce que vous croyez être l'idéal d'égalité.
Je ne crois pas. Je pense que nous n'accordons pas tout simplement le même sens au mot sélection. C'est-à-dire que, personnellement, je pense que des classes ou des groupes de niveau, du moins dans certains points, seraient souhaitables, de même que des partenariats interniveaux et surtout interclasses d'âge, mettant les élèves en position de responsabilité, de tutorat, etc., peuvent être souhaitables également. Il faut évidemment distinguer le niveau. Mais ça ne veut pas dire forcément exclure ou créer des écoles différentes au rythme différent. Ça, c'est précisément ce que le nivellement par le bas de l'école publique induit, à savoir que tous les gens qui en ont des moyens, et c'est quelque chose qui me choque, les gens qui ont les moyens de le faire fuient désormais l'école publique et se créent donc une école à deux vitesses. Ce qu'il faut sauver, c'est l'ambition républicaine par la sélection année après année, groupe par groupe, des problèmes à traiter, offrant remise à niveau, petits groupes différenciés, ce qui impose des effectifs réduits, parce qu'évidemment, on ne fait pas ce que vous dites, on ne fait pas une quelconque sélection, même pour le soutien, avec 35 élèves par classe, qui est notre lot commun. Donc, ce n'est pas une question vraiment de sélection, mais c'est une question, en effet, de jugement et de traitement différencié en fonction des besoins.
Mathilde Brézet.
Oui, moi, ce qui me frappe malgré tout dans la conversation qu'on est en train de poursuivre, c'est qu'on continue à penser l'école pour la société. C'est une des grandes questions qui se pose à l'éducateur, c'est-à-dire est-ce que on va penser l'école pour l'élève ou l'école pour la société? Et la mise au premier plan systématiquement de la lutte contre les inégalités sociales, l'éducateur qui se pense constamment en guérisseur de la société, en remédiateur social, finit par prendre des décisions totalement contre-productives, éducativement et pédagogiquement. J'en ai vu des exemples très concrets dans mon lycée. Évidemment,
vous enseignez les lettres classiques.
Les lettres classiques.
Dans un lycée du 95.
Oui, exactement. Il y a une question qui se pose de manière très forte aujourd'hui, qui est la question du numérique. Que faisons-nous du numérique? Est-ce que nous éduquons avec le numérique ou par le numérique, etc. De manière très concrète, Aujourd'hui, les régions proposent de financer et proposent d'équiper les élèves en tablette ou en ordinateur.
Oui, ce que Valérie Pécresse avait inauguré,
la région
en offrant des tablettes à tous les élèves d'Île-de-France.
Tout à fait. Évidemment, c'est un proviseur qui va signer un partenariat avec la région pour mettre en place ou non cet équipement. C'est une décision capitale. Donner des tablettes ou donner des ordinateurs à des cohortes d'élèves, ça va bouleverser évidemment la manière d'enseigner. Cette décision, que la région la propose, très bien, c'est peut-être son travail, ses ambitions politiques. Mais au niveau de la communauté éducative, c'est une décision qui doit être discutée absolument, professeurs, proviseurs, personnel d'éducation. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est que dans les conseils pédagogiques dans lesquels on discute cette décision, les arguments évidents sortent des arguments qui consiste à dire que c'est une aberration pédagogique, c'est une aberration en termes de santé publique, alors qu'on sait aujourd'hui les phénomènes de l'accoutumance aux écrans, etc. Je ne vais pas détailler, mais il y a un millier de bonnes raisons pour dire il est trop tôt, ça n'est pas le moment, ça ne va pas marcher. Mais 9 fois sur 10, ce qui va emporter la décision dans un conseil pédagogique, c'est « oui, mais de cette manière-là, nous allons réduire la fracture numérique. Nous allons équiper des élèves qui n'avaient pas accès aux tablettes et aux ordinateurs. » Et là, fin de la discussion, on équipe tout le monde, non pas pour l'élève, mais parce qu'on va agir sur la société.
On va agir sur la société dans un certain sens qui est lui-même pas celui de l'éducation, mais celui du marché et des techniques. Et c'est pour ça que je ne serais pas complètement opposée personnellement dans une optique républicaine, puisque c'est le thème de l'émission. La chose commune impose, finalement, on peut sauver la phrase de Papendiane selon laquelle il faut limiter les inégalités sociales. Mais de quelles inégalités parle-t-on ? Moi, je parle des inégalités dans l'accès possible à la raison, au savoir et avant tout à la langue française.
Mais là, on dira que on vous parle des inégalités d'accès au numérique, par exemple.
Oui, mais
est-ce que cette inégalité est grave et que faut-il penser d'un tel slogan à l'heure où de plus en plus de parents ne savent plus quoi faire pour déconnecter leurs enfants, à l'heure aussi où, comme l'a écrit notamment Cédric Biagini dans son livre « L'emprise numérique », les cadres supérieurs des grandes entreprises du numérique, Google, Yahoo, Apple, eBay, envoient leurs enfants dans des écoles déconnectées, seulement du papier, des stylos, des aiguilles à tricoter, parfois de la terre claise, de bons vieux tableaux noirs, des pupitres en bois et des encyclopédies sur des étagères. Tout cela contribue à une ambiance délibérément rétro. Et Cédric Biagini cite un gérant d'une société qui développe des logiciels selon lesquels beaucoup de parents pensent que la technologie divertit les élèves, les détourne du savoir. Celui qui va sur Internet a toutes les chances de se retrouver à faire autre chose que de la recherche, lire la bourse, les résultats sportifs, chatter sur MSN. Les concepteurs des machines que sont Google, l'iPad ou encore eBay sont parfaitement conscients du phénomène d'addiction qu'ils créent et veulent en préserver leurs enfants. C'est un cynisme génial. On peut dire que nous en sommes là. Aujourd'hui, le numérique donne l'illusion du savoir parce que le savoir devient accessible. L'accessibilité à la connaissance remplace la connaissance. Et il faudrait s'élever contre cette illusion alors qu'elle devient un véritable fétichisme technologique relayé par les élites politiques. Il me semble que là, il y a quelque chose à faire justement pour sauver l'école républicaine, Camille Dejardin.
Bien sûr. D'ailleurs, je partage ce diagnostic. Le numérique est un problème plus qu'une solution et la focalisation actuelle sur la numérisation de l'école est soit un faux débat, puisque de toute façon, ceux qui sont contre ne sont pas entendus, et surtout est un palliatif qui permet de faire une diversion, une mesure dilatoire permettant de ne pas parler d'autres outils dont on a besoin. Mais quand je parlais d'égalité, je tiens vraiment à expliciter ce que j'entendais tout à l'heure. L'égalité que j'ambitionne d'essayer de à laquelle j'espère contribuer par mon enseignement, ce n'est pas l'égalité...
Vous enseignez la philosophie.
J'enseigne la philosophie.
À Vendôme.
À Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Je pense que l'égalité matérielle et numérique n'est pas le problème de l'école. Ce qu'il faut, c'est essayer de construire une espèce d'égalité mentale devant les outils logiques. J'écris d'ailleurs dans mon livre que les enfants n'ont pas besoin de plus d'ordinateurs, ni d'ordinateurs tout court. Je dis qu'à la limite, silence, écoute, livre et verdure sont les premières choses dont ils auraient besoin. Donc, vous pensez bien que je suis tout à fait d'accord avec cela, mais j'aimerais quand même vous lire un tout petit extrait, si possible, de juste deux copies d'un collègue d'Histoire Géo, parfaitement anonyme, bien sûr, mais il s'agit de deux élèves de terminale, dont je précise qu'ils sont simplement natifs français, pas de milieu particulièrement défavorisé, et en plus de bons élèves, enfin de bons élèves, des élèves attentifs en cours et tout à fait sympathiques. Et c'est un devoir d'Histoire Géo qui fait suite à 8 heures de cours sur les causes, les conséquences et les enjeux de la crise économique de 1929. Et on lit deux phrases simplement de chaque. Le lendemain de Première Guerre mondiale, les pays sont ravagés. La production dans les usines vont connaître une production qui va devenir ascendante. Les usines produire de plus en plus et les matières premières au singulier aussi. Une autre copie. Pour conclure, la crise de 1929 a eu une belle impact sur la population à cause de la détresse des agriculteurs qui ont été privatisés de leurs biens, mais aussi une grande pauvreté s'accumula à cause du chômage qui a augmenté de masse. Pour ce qui en est de la France, sa population manquait de pain, mais également de main-d'œuvre suite aux vieux qui fatiguent. Le chômage était aussi très haut. Voilà ce que nous lisons. Moi, je parle d'égalité aux outils de la raison et de la langue, sans quoi aucun outil numérique ne peut avoir une quelconque utilité et le savoir reste lettre morte derrière les images qui s'accumulent.
Alors là, évidemment, ça m'amène à m'interroger. Tout à l'heure, je poserai la question qui importe particulièrement à Mathilde Brézet et à moi-même, du point de vue de l'élève, se mettre du point de vue de l'élève, et je poserai la question « Pourquoi apprendre ?» Voilà. Mais je voudrais d'abord en rester à ces copies, parce que on a tendance à penser aujourd'hui, toujours obsédé qu'on est par l'inégalité, que avec ces réformes, et malgré leurs bonnes intentions, les inégalités augmentent, au moment même on voudrait les faire baisser. Donc, on sous-entend l'élite s'en sort. L'élite s'en sort toujours parce qu'elle met ses enfants dans d'autres lycées, etc., etc. Mais là, vous voyez des natifs, comme vous dites, des enfants des classes favorisées, et il y a un véritable effondrement linguistique, syntaxique. Donc peut-être que l'élite ne s'en sort pas non plus. Peut-être que l'élite est elle-même de plus en plus déculturée, même si, au bout du compte, il y a des diplômes. Donc tout ça, quand même, paraît extrêmement surprenant. On peut dire que les inégalités augmentent, mais que même le niveau des meilleurs baisse, notamment pour ce qui concerne les humanités.
Oui,
Mathilde Brézet.
C'est effectivement assez frappant, comme vous le dites, tous les élèves manifestent cette baisse de l'expression, cette difficulté à s'exprimer, cette difficulté à trouver le mot juste, à accrocher une pensée fine. J'ai la chance effectivement d'enseigner le latin et le grec dans lesquels on a en partie des élèves qu'on appelle des bons élèves ou des élèves qui sont très à l'aise à l'école. Et là aussi, la syntaxe étonne, on doit expliquer le sens du mot « se concilier quelqu'un » ou « se concilier quelque chose » en première ou en terminale. C'est très net. Quant à savoir s'ils s'en sortent, on ne peut pas répondre à la question puisque les diplômes sont délivrés quoi qu'il arrive. Et si on veut le prendre par un autre bout, ça devient une question complètement métaphysique. Qui s'en sort vraiment? Qui va s'en sortir? On dépasse le cadre.
Est-ce que le numérique n'a pas un rôle aussi dans cet effondrement du niveau, dans la mesure où la communication change de nature avec les portables,
oui,
etc., l'orthographe est elle-même sacrifiée.
Oui. Ce qui est frappant, c'est pas le numérique en général, mais disons le fonctionnement du téléphone portable et le fonctionnement des applications. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que les élèves fonctionnent en siloïsation. On entre dans une application, on n'en sort pas. On est sur Snapchat, on ne sort pas de Snapchat. Cette promesse de l'Internet qui était d'apporter, d'irriguer constamment les cerveaux, d'irriguer, de croiser les cultures, avec le téléphone tel que l'objet existe, avec les applications, on ne sort pas d'un monde, on ne sort pas aussi d'une manière de s'exprimer, puisque ces applications-là créent des langages. Quand on chatte, quand on échange des photos, on finit par s'exprimer toujours de la même manière. Et y a des langages parallèles, extrêmement pauvres, mais qui suffisent à l'utilisation qui en est faite, qui se créent et dont les élèves portent les stigmates dans leur expression tous les jours.
Camille Desjardins.
J'abonderai dans ce sens en ajoutant quelque chose qui est l'emprise de la présence du smartphone. Actuellement, c'est à peu près un smartphone par élève. Il y a très peu d'élèves qui n'en ont pas. Je n'en connais personnellement pas. Donc, chacun a son smartphone. Et le smartphone, en tout cas, peut-être plus au collège de nos jours, mais au lycée, est non seulement autorisé dans l'établissement, mais est parfois bienvenu et encouragé en cours selon le principe du BYOD, Bring Your Own Device, apporter votre propre matériel qui permet à des professeurs de pallier la déficience de matériel de pointe dans l'éducation nationale, que ce soit une caméra, une connexion Internet digne de ce nom, en disant aux élèves de sortir leur portable en classe pour faire des recherches au lieu d'aller en salle informatique.
Je précise ici que je fais ça, j'expliquerai dans quel cadre.
Bien, mais le fait est que les élèves ne lâchent jamais leur portable. Et ce que j'ai personnellement instauré cette année, après donc un certain nombre d'années de lassitude, et où j'ai eu l'occasion à 8 ans de voir se dégrader la concentration des élèves et leur niveau de langue de façon alarmante, j'ai décidé de ne plus faire de petite interclasse de 5 minutes entre 2 heures d'un cours de 2 heures, puisque les élèves sortaient immédiatement de façon pavlovienne leur smartphone pour aller immédiatement se river sur des images, notamment Instagram, chez moi c'est ce qui domine. Ils regardent des photos, de courtes vidéos qu'ils scrollent à l'infini. Le principe de scroller, c'est que le défilement est infini, donc vous avez toujours quelque chose à vous mettre sous la dent, et ils se rincent immédiatement le cerveau de toute la leçon qu'on vient d'avoir. Ils ne se parlent pas entre eux, chacun a la nuque cassée sur son propre téléphone, aligné contre le mur du couloir qui soutient leur corps un peu défaillant, sans qu'ils aillent aux toilettes, sans qu'ils se dégourdissent les jambes, sans même qu'ils ne s'adressent la parole entre eux, et ces pauses n'étaient pour eux que l'occasion de vider leur cerveau de tout apprentissage possible des contenus qui venaient d'être abordés. Donc j'ai décidé d'abolir ça entre 2 heures de cours, mais sachez que c'est à chaque interclasse que le portable, et c'est ce qui est sorti avant même que les élèves sortent physiquement de classe, ils ont ressorti leur portable et ils s'abreuvent de contenus qui sont pour la plupart non linguistiques. Non seulement il y a des langues parallèles, il y a des styles parallèles, il y a des symboles parallèles, mais il y a aussi une culture de la passivité devant une image qui ne se met pas en mots. Les mots sont les grands perdants de la numérisation et de la culture démocratique que l'on promeut aujourd'hui.
Donc, s'il faut aujourd'hui reconstruire l'école, comme je le disais au début, peut-être serait-il nécessaire et même indispensable de déconnecter les élèves tout le temps qu'ils passent à l'école, non seulement la classe, mais aussi la récréation, c'est-à-dire on dépose les portables avant d'entrer, même dans la cour et a fortiori dans les classes.
Ah, j'en suis persuadée, je pense que l'école, si elle voulait assurer sa mission de service public, devrait offrir aux élèves précisément ce qu'ils ne trouvent pas chez eux ni dans le reste du monde. C'est ce en quoi elle justifie son rôle d'instance unique parmi les autres. Il faudrait leur offrir un temps de déconnexion, du temps de cerveau disponible à d'autres choses.
Oui, ce sont des choses qui sont expérimentées d'ailleurs dans les classes. On voit se multiplier dans des lycées, et même des lycées publics, ce qu'on appelle des boîtes à portables dans lesquelles les élèves déposent leur téléphone au début du cours. Je ne crois pas encore qu'on ait réussi à unifier ça sur une journée, mais c'est évidemment une des directions dans lesquelles il faudrait aller. Mais ce qui me fascine là dans la conversation qu'on est en train d'avoir, c'est qu'on en est revenu aux besoins de l'élève. On en est revenu à considérer ce qu'est un élève. On en est revenu à se demander qu'est-ce qu'un élève, qu'est-ce qu'un enfant, qu'en est-il de son développement intellectuel, qu'en est-il de son développement émotionnel. Peut-être un élève n'est pas un adulte. On n'envisagerait pas d'enlever son téléphone portable à un adulte toute la journée, même si ça pourrait se discuter. Et en repartant de ces données-là, on est en train de penser une éducation. Et à mon avis, si l'école républicaine a un avenir, c'est en se lançant dans cette direction-là. De quoi les élèves de notre temps ont-ils besoin ?
Mais alors, eh bien, je vais vous obéir, Mathilde Breuset, parce que vous avez une très grande autorité. Donc, interrogeons-nous, posons-nous cette question. Mais justement, il est difficile de la poser aujourd'hui pour des raisons, je crois, profondes, qui ont à voir avec le mouvement même de la démocratie, qui est, comme d'autres l'ont dit avant moi, et comme Tocqueville l'a le premier montré, une dynamique de l'égalité des conditions, ou on pourrait-on dire en termes plus philosophiques, une dynamique de subjectivation. L'égalité des conditions, selon Tocqueville, c'est le principe qui énonce que chaque être humain apporte en naissant un droit égal à la liberté, c'est-à-dire un droit de conquérir son autonomie et son indépendance individuelle. Or, ce droit a été, peu à peu, justement, dans un mouvement qui inquiétait Tocqueville, étendu aux enfants eux-mêmes. Et ils ont ce droit, donc, non, dès la naissance, en quelque sorte, c'est la libération des enfants. Dès lors, l'école se trouve en porte-à-faux, notamment vos disciplines, les humanités, philosophie et lettres, parce que vous donnez des objets, des œuvres, vous les offrez à l'admiration des élèves. Mais pourquoi devraient-ils admirer avant de connaître? Pourquoi cette déférence préalable? Ne sont-ils pas déjà des sujets? Et qu'est-ce qu'un classique? C'est justement, la culture, c'est l'a priori. Or, un a priori est-il admissible dès lors que les élèves sont des sujets et qu'ils ont le droit à avoir leur propre opinion? La démocratie n'est-elle pas lancée dans un processus qui met lui-même en difficulté l'école républicaine? Nous assistons, me semble-t-il, aujourd'hui à une perversion démocratique de l'idéal des Lumières. L'idéal des Lumières, c'est et le courage de te servir de ton propre entendement, comme dit Kant, et donc, à ce moment-là, tu le fais sans la conduite d'un autre, mais si tu arrives à l'école avec cette idée-là en tête, ben, on ne peut plus rien t'enseigner, et les humanités sont les disciplines les plus fragiles face à cette revendication, parce qu'elles n'ont pas de savoir objectif à offrir aux élèves. Camille Desjardins.
Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la citation de Tocqueville que vous avez relayée. Et bon, Tocqueville est quelqu'un que je connais, enfin un auteur que je connais bien, et John Stuart Mill a beaucoup...
Oui, sur lequel vous
voilà,
avez écrit.
Sur lequel j'ai écrit, a beaucoup conversé avec lui. Il y a quelque chose qui les intéresse tous deux en tant que libéraux, et en tant que libéraux, pas néolibéraux à notre sens actuel, et pas non plus complètement démocrates au sens des potentielles perversions de la démocratie dont vous parlez, et que Tocqueville et Mill ont très bien pressenti en leur temps. Mais c'est le mot « conquête de l'autonomie ». C'est-à-dire que l'autonomie ne se décrète pas et ce n'est pas un donné. Un enfant naît immature, alors reste à savoir quand on devient mûr, c'est un grand débat, le sommes-nous à 30 ans, à 40 ans, mais en tout cas, on doit conquérir son autonomie, et cette autonomie, c'est avant tout l'autonomie du jugement, qui passe nécessairement par une phase d'hétéronomie qui nous introduit dans un monde transcendant à notre ego. Et il me semble que ça, si on l'oublie, on s'achemine vers une démocratie conflictuelle, parce que fondée sur d'un conflit d'a priori. L'école propose un a priori, mais chaque individu a aussi le sien, celui de sa communauté d'origine, celui de sa culture de prédilection spontanée. Et si on ne pose pas l'hétéronomie de l'école comme étant un lieu de formation pour des gens présupposés immatures, eh bien on va vers le conflit des identités et l'impossibilité de relayer quelque culture que ce soit.
Alors diriez-vous, Mathilde Brézet, que ce que l'école doit aider l'élève à obtenir, c'est précisément son autonomie. La conquête de l'autonomie est-elle, selon vous, l'horizon ultime de l'école républicaine?
Non, moi j'irai encore plus loin. Il me semble qu'on pourrait aller jusqu'à prononcer le mot, le gros mot peut-être, de formation spirituelle de l'individu. En cela que l'individu s'accomplira non seulement par son autonomie, mais par une liberté et par la liberté ultime qui sera celle de l'esprit. Mais ce qui est très intéressant et ce avec quoi je m'accorde tout à fait dans votre propos, c'est cette idée qu'on ne peut pas traiter un enfant comme un adulte. Le pédiatre et psychanalyste Winnicott, il avait l'habitude d'appeler l'adolescence le poteau noir pour rendre compte de cette immaturité psychique, psychologique, qui est propre à l'âge de l'adolescence. Le poteau noir, vous savez, c'est cet espace de navigation entre les tropiques où on ne sait jamais de quel côté le vent va tourner, s'il y aura du vent, si la foudre va tomber. Et à ce titre-là, nous devons prendre au sérieux ce que sont les élèves, ce que sont les enfants, les adolescents qui nous sont confiés, et nous ne pouvons pas les traiter comme des adultes ou des sujets accomplis.
Ni transformer leur mal-être en droit.
Exactement.
Droit, oui.
Et pour parler encore plus franc, l'école aujourd'hui est le théâtre d'un conflit extrêmement fort des identités. De toutes sortes d'identités, des identités communautaires, que ce soit des communautés religieuses, que ce soit des communautés de vie, de style de vie. Et ce conflit se perpétue dans la société. Or, ce que nous prétendons faire aujourd'hui avec notre école, c'est régler les problèmes de la société. Donc nous prétendons en amont endormir, désamorcer certaines identités, faire la place à d'autres pour les permettre de les voir mieux acceptées dans la société. Mais on gagnerait en partant de ses purs principes d'éducation et sans se préoccuper, sans penser l'école pour la société, mais en pensant l'école pour l'élève. À se dire que l'école doit être le lieu du grand décentrement de soi, de la grande mise de côté des identités, ce qui ne veut pas dire accueillir les élèves avec indifférence, aucun éducateur ne fera ça, mais nous sommes en droit de réclamer des élèves qu'ils mettent de côté leurs identités, nous accueillons leurs sentiments, nous accueillons leurs affects, nous accueillons leurs intelligences, mais à l'école, et c'est valable, vous voyez bien, pour toutes les identités auxquelles je fais allusion, que ce soit des identités sexuelles, des identités religieuses, des identités politiques, à l'école, je mets en veilleuse mon identité pour apprendre.
Alors, est-ce encore possible ? C'est-à-dire, nous n'avons pas abordé la question du nouveau public scolaire aujourd'hui. N'est-il pas en train de changer les choses ? Yanis Roder a publié tout récemment « La jeunesse française, l'école et la République ». Dans ce livre, il parle des élèves d'une classe de quatrième, ces élèves qui sont invités donc à trouver des slogans sur le thème de l'égalité fille-garçon. Et une jeune fille a proposé spontanément « Dieu est grand ». Donc, évidemment, l'intervenant a essayé d'expliquer, ça a été très difficile. Non, tout cela pour dire que cette finalité que vous assignez à l'école est d'autant plus difficile à accomplir que le conflit des cultures, voire des civilisations, s'aggrave aujourd'hui. On le voit avec la dernière revendication islamiste. Hein, même le ministère d'éducation nationale est obligé d'en tenir compte aujourd'hui. Ces abayas, ces camis, ce n'est pas le voile, ni a fortiori le foulard islamique, mais ce sont des vêtements religieux. Les non-musulmans n'en portent pas. Donc tout cela ne contribue-t-il pas à changer complètement la donne dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire ?
Le public est bien en effet en cause, mais il me semble qu'il est moins en cause que la latitude d'expression de ses identités que l'institution elle-même lui concède. Et je tiens à dire que les élèves changent, certes, mais ils changent surtout comme on les encourage à changer. Et j'ai parlé dans mon livre d'une McDonaldisation de l'école. J'assume cette comparaison, on leur dit « venez comme vous êtes ». Tenue incorrecte, voilà. Tenue incorrecte exigée, revendication d'identités diverses, c'est aussi un choix institutionnel qu'il faut savoir assumer, savoir mettre une limite et la faire respecter. Aujourd'hui, cette volonté politique est-elle là ? Monsieur Jean-Michel Blanquer avait la réputation, l'aura, je ne sais pas pourquoi, d'être de droite, ce qui sous-entendrait qu'il serait conservateur. J'ai personnellement assisté à une réforme du lycée et du bac, tendance libérale, même ultra-libérale, qui promouvait un bac à la carte au nom du choix de l'élève, tout en reconduisant souterrainement des logiques de spécialisation anticipée et donc d'inégalité accrue. Mais, et on ignore souvent que Jean-Michel Blanquer est aussi celui qui a fait paraître une directive ou une circulaire, alors le statut juridique précis de ce texte m'échappe, mais un texte, réglementaire, qui impose aux enseignants d'appeler les élèves par leur prénom d'usage, le prénom de leur choix, y compris un prénom du sexe opposé au leur, sur simple demande, y compris quand aucun traitement, aucune opération ou aucun changement d'état civil n'a encore été acté. L'école, les enseignants eux-mêmes, doivent anticiper un changement d'état civil qui n'a pas lieu en se pliant aux représentations particulières des élèves, une certaine vision de leur identité individuelle. Donc ce à quoi on assiste là, c'est un régime d'exception, un régime de privilège qui exempte certains élèves au nom d'une minorisation revendiquée comme devant être compensée, un régime d'exception de l'état civil qui pourtant prévaut pour tous les élèves et tous les êtres normalement. Donc il y a aussi, il y a les identités, il y a les revendications, il y a les représentations. Il y a leur place qu'on leur fait.
Il y a le rôle que devrait jouer l'école. Mais justement, est-ce que ça, tout cela ne procède pas d'une idée républicaine ou d'une idée démocratique, en l'occurrence, devenue folle ? Notamment l'idée d'autonomie. C'est-à-dire, voilà, c'est l'autonomie qui prime tout le temps. J'ai sous les yeux, par exemple, un vieux numéro de l'École des Lettres avec une interview de celui qui s'occupait à l'époque de la réforme de l'enseignement des lettres. C'est Alain Viala et il dit le programme qu'il s'agit de mettre sur pied a un objectif central, l'autonomie. Donner de l'autonomie dans le débat d'opinion, c'est notre mission dans un lycée démocratique, parce que de toute façon, notre domaine, celui des lettres, voire de la philosophie, est très simplement et très clairement celui des opinions. Il me semble moins que Bérénice, les fleurs du mal, la recherche du temps perdu, ne sont pas des opinions, ce sont des monuments. Et les monuments, on les visite. Mais là, maintenant...
Et les textes de philosophie, mais avec sa raison, et ce n'est pas une opinion.
Et donc, là, on dit toujours autonomie, opinion, chacun son opinion, chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, penser comme il le souhaite. Alors, certains diront, ben oui, mais l'autonomie, on l'acquiert un peu. On peut pas l'avoir à 8 ans, on va l'acquérir à 15 ans et à 16 ans. Mais ne doit-on pas penser la culture en d'autres termes? Ne s'agit-il pas, justement, d'élargir l'esprit? Et moi, j'ai eu un livre d'entretien avec Peter Sloterdijk, où il m'expliquait ceci, après les grandes illusions des années 60 et 70, le désir qui a été le sien de vieillir. Il avait une conception assez enfantine de l'histoire de l'esprit, la vision d'un énorme trésor qui l'incitait à l'appropriation. Il voulait s'approprier 3000 ans d'histoire européenne. C'est ça. Il voulait donc vieillir. Et n'est-ce pas ça que l'école offre ? Par-delà cette opposition dans laquelle moi je me sens toujours à l'étroit entre autonomie et hétéronomie. Vous êtes un enfant, ben voilà, vous allez être intégré dans un monde plus vieux que nous. Grâce à moi, grâce à l'école, vous allez vieillir.
Oui, on pourrait dire aussi grandir. C'est-à-dire grandir, mûrir.
Oui, c'est mieux vieillir, c'est pas tellement exaltant. Et elle dit ça en me regardant en plus, Mathilde Brest. C'est agréable.
Non, mais donc, on pourrait dire grandir et grandir par l'esprit, qui est ce qu'on vient finalement cultiver à l'école. Simone Veil disait, la vraie définition de la science, c'est qu'elle est l'étude de la beauté du monde. Voilà l'horizon qu'on devrait donner à nos élèves. Voilà, non pas des finalités techniques, pragmatiques, immédiates des compétences, mais dans toutes les matières, que ce soit les sciences de la Terre, l'étude des lettres ou de la philosophie, on devrait enraciner nos matières dans cette perspective philosophique, ce but spirituel par lequel on vient dire à l'enfant qu'il est invité à grandir, c'est-à-dire à mettre de côté certaines choses, à en laisser attendre d'autres et à recevoir surtout ce qu'on vient lui donner.
Oui, allez-y, Kevin Desjardins, pardon.
Et in fine, à partager le monde. Parce qu'il me semble que, alors là où je serais peut-être légèrement critique de l'expression choisie malheureusement par Peter Sloterdijk ici, dans notre enjeu actuel, c'est l'appropriation. C'est que pour moi, la culture, on parle beaucoup d'appropriation culturelle, mais c'est un faux débat parce que la culture, ça fait partie de ces biens qu'on peut se partager sans la prendre aux gens. On peut tous la partager. Plus on est à se la partager, plus il y en a. Donc il n'y a pas vraiment à s'approprier une culture, il y a surtout à l'intérioriser, à y goûter, y communier avec autrui, et c'est là que je rejoins la perspective républicaine de monde commun, partager un monde commun par la connaissance, par l'admiration, par la satisfaction aussi qu'il y a à contempler les œuvres humaines ou les lois de la nature, diraient les sciences naturelles. Il y a quelque chose dans l'horizon du partage que l'autonomie n'épuise pas. Après, je trouve que l'autonomie est quand même un beau mot, alors peut-être parce que j'ai sa version du 19e siècle en tête, je critiquerais plutôt sa version actuelle dévoyée, qui me semble être plutôt de l'autodétermination, qui semble l'idée qu'un individu peut se faire tout seul, sans autrui, dans l'optique d'une vie qu'il pourra mener aussi tout seul, sans engagement, comme on dit, et sans la contrainte toujours transcendante de la présence d'autrui.
Mais sentez-vous chez les élèves, aujourd'hui, cette espèce de scepticisme quand vous proposez des œuvres à leur admiration? Sentez-vous qu'ils disent... chacun peut penser ce qu'il veut, parce qu'on a l'impression que le climat qui règne aujourd'hui dans l'école, c'est justement le climat d'une sorte d'ultra-libéralisme au sens de Stuart Mill, mais là encore un libéralisme un peu dévoyé, c'est-à-dire chacun peut faire ce qu'il veut, notamment si toi t'as envie de porter le voile, ben tu portes le voile, on va pas t'embêter. Donc on ne comprend pas très bien non plus
mon droit, mon
ce
choix,
qu'est la laïcité, mais ça peut valoir aussi dans la réception des œuvres. Bon, ben voilà, ma prof trouve que je sais pas, moi, Phèdre, c'est magnifique, ou Madame Bovary, ben, je veux pas l'embêter avec ça, mais moi, je pense que je veux, et je regarde ma tablette, et tout le monde est content. Mais est-ce qu'on a ça?
Le scepticisme, il est prégnant quand on commence le cours, et quand on annonce, je trouve, le titre de l'œuvre. Mais ce qui me fascine, moi, c'est qu'à chaque fois qu'on leur propose, justement, l'ouverture à l'universel, en leur disant, non, nous ne sommes pas dans le règne de l'opinion. Oui, il y a des vérités de l'esprit qui ne sont pas simplement modelées sur cet universel mathématique, cet universel des sciences exactes. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'universel et de l'altérité, de la découverte de l'altérité, par les lettres, par la littérature, par le parcours de tel ou tel personnage. Et quand on leur propose, on lit une fascination, une satisfaction très grande dans cette proposition de sens qu'on leur fait. Et pour ça, moi, je ne désespère pas du tout.
Donc, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes une professeure heureuse, mais en tout cas, vous pensez pouvoir continuer votre métier dans des conditions favorables, Mathilde Brézé.
Que répondre? Des conditions favorables, tout pourrait être discuté. Je vais continuer et chaque entrée en cours est un combat pour l'esprit, au nom de l'esprit, qu'on va essayer de faire triompher sur le règne de l'opinion.
Et jusqu'à présent, vous y arrivez?
On essaye.
Et donc, est-ce que vous sentez, vous, qui enseignez la philosophie, le scepticisme dont je parle, est-ce que vous avez à vaincre cette barrière, à surmonter cette barrière?
Chaque jour.
Camille Desjardins.
Chaque jour, et c'est l'enjeu de mon cours de philosophie depuis le premier jour jusqu'à le dernier jour de l'année, avec, je pense, quelques petites victoires. En effet, les élèves arrivent pétris de slogans McDo, Netflix, et de manière générale issus de la culture médiatique américaine ou consumériste américaine. Chacun fait ce qu'il veut, chacun son identité, faut être fier, body positive, tout ce que vous voulez, tout ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux. C'est une apologie de « venez comme vous êtes, ne changez rien », etc. Et les élèves en sont pétris. Peut-être que je leur prête une culture plus uniforme qu'ils ne l'ont. Je ne demande qu'à être détrompée. Mais ce qui est sûr, c'est que j'arrive en... Maintenant, je surjoue le combat. J'arrive dès les premiers jours en leur disant « Bon, aujourd'hui, chacun pense pas ce qu'il veut. Il y a une vérité. Il y a une vérité de l'esprit. La vérité est relative. Elle est humaine. Mais elle peut faire l'objet d'une progression universelle des êtres humains dans une même application de leur sensibilité et de leur raison vers certains objets. » Et je surjoue... Beaucoup de ma pédagogie consiste à jouer un rôle volontairement caricatural, volontairement parfois provocateur, pour susciter des réactions, pour contredire le relativisme mou. Vous appelez ça scepticisme, j'appelle ça relativisme mou, c'est-à-dire une espèce de mise en retrait des opinions et du parti pris qui exige là une action délibérée de la pensée, au prétexte que de toute façon, à la fin, chacun pense ce qu'il veut. Et moi, je leur dis, mais si vous commencez votre dissertation comme ça, pourquoi pas, si vous la finissez comme ça, je vais vous dire, bah, dans ce cas-là, et toi, tu penses quoi? Refais ta dissertation. Donc, il va falloir sortir du chacun pense ce qu'il veut pour se mettre à penser. Et ça, c'est un travail devant lequel je trouve que les élèves sont de très bonne volonté. J'ai la chance d'avoir des élèves vraiment sympathiques. Mais je sens souvent chez eux une profonde détresse. Et cette détresse vient du fait qu'ils ne maîtrisent pas, pour la plupart, les outils de la langue suffisants. Quand vous avez une phrase de Descartes qui fait « Je ne sais pas, ce n'est pas d'aujourd'hui que je me suis aperçu que dès mes premières années, j'ai reçu quantité de fausses opinions pour véritables et que ce que j'ai depuis construit sur des principes si mal assurés ne peut être que fort douteux et incertain. » Rien qu'une phrase aussi longue que celle-ci, et il y en a plusieurs dans le texte qu'ils doivent commenter, les élèves sont écrasés. Donc encore une fois, moi, je milite pour l'accès de tous à la langue française, dans sa correction, dans sa rigueur, parce que sans elle, point de philosophie ni de lettres.
Oui, et il faudrait que tout le monde suive votre exemple, du haut en bas de l'échelle sociale. Malheureusement, ce n'est pas vrai. J'ai entendu à la radio l'autre jour une animatrice, une journaliste célèbre, réagir plutôt négativement aux agressions idéologiques, à l'agression idéologique contre la langue que représente l'écriture inclusive, en disant l'écriture inclusive, je suis pas fan. Si c'est ça, si vous voulez, la langue de l'élite aujourd'hui, cette espèce d'avachissement généralisé, on a du mal à penser qu'il y aura les bonnes réactions parmi les enfants et les adolescents eux-mêmes. Mais alors un dernier mot maintenant pour finir. Qu'attendez-vous professeur de la rue Grenelle. Qu'attendez-vous de votre ministre? Que doit-il faire qui aille dans le bon sens et qui vous aiderait?
Lire mon livre.
Ce que je voudrais que l'éducation nationale de 2022 soit capable de faire, c'est se débarrasser des mantras. Se débarrasser de ces idées toutes faites qui, à mon avis, ruinent la pensée de l'éducation dans notre pays. Je précise que j'ai commencé en stigmatisant Pape Ndiaye parce qu'il avait parlé de lutte contre les inégalités sociales. Mais en réalité, ça fait 40 ans que c'est dans la lettre de rentrée de tous les ministres de l'éducation. Donc voilà ce que j'appelle un mantra. Il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Mais essayons de penser l'éducation et de penser l'école pour les élèves.
Moi, j'applaudis à ce qu'a dit ma collègue. Oui, débarrassons-nous des mantras, on n'apprend pas à penser, on ne remplace pas les préjugés par des mantras, on remplace les préjugés par de la nuance, de la connaissance et de l'investissement concret dans le monde. Et pour peut-être terminer sur le thème qui nous occupe aujourd'hui, l'école républicaine en particulier, qui n'est pas n'importe laquelle, qui est celle de la République, je pense que l'école française doit s'efforcer de lutter contre une double tentation, celle du libertarisme qui promeut l'individualisme et le regroupement affinitaire jusqu'à l'explosion de l'idée de chose commune, comme celle du communautarisme qui réduit cette chose commune au partage identitaire d'une certaine culture qui déterminerait une appartenance, tout en refusant bien sûr de céder à l'autoritarisme. Donc c'est un subtil compromis. L'école devrait être le socle de la République et je pense que l'avenir de l'école républicaine dépend de l'avenir que l'on souhaite donner à la République elle-même, ce qui est véritablement, me semble-t-il, la question politique de notre temps présent.
Écoutez, merci pour cette conclusion, Camille Desjardins.
Merci à vous.
Également Mathilde Brézet. J'espère que nous aurons contribuer avec nos petits moyens à cette reconstruction urgente de l'école républicaine. Je rappelle, Camille Desjardins, le titre du livre, du petit livre que vous publiez aux éditions Gallimard dans la collection Tract, Urgence pour l'école républicaine, exigence, équité, transmission. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Florent Layani. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre Le passé antérieur. Mes invités seront Annette Viviorca et Gilles Kepel. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.